Patricia Martin, vous recevez ce matin l'écrivaine Claire Berest, auteure de Rien n'est noir. Le livre paraît chez Stock.
Claire Berest, bonjour.
Bonjour. Ce livre est le livre d'une amoureuse. Je parle de vous parce que c'est une rencontre entre Frida Kahlo et vous. Par sa peinture, évidemment, vous ne l'avez pas connue personnellement, vous êtes beaucoup trop jeune. Comment est-ce que s'est produite cette rencontre ?
En fait, je pense que tous, on a comme ça des rencontres folles en amour avec des écrivains, des musiciens, etc., des chanteurs. Et moi, en fait, ça s'est passé il y a presque 20 ans. J'étais partie sur un coup de tête à New York, alors que je devais faire mon DEA. Et je me suis retrouvée très très seule là-bas, parce que je ne parlais pas anglais, je n'avais pas d'amis. Et c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, à peine les mails. Et j'ai vraiment fait cette expérience de la très grande solitude. Pas forcément malheureuse, mais vraiment cette idée d'être seule dans la ville. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a offert une carte postale d'un tableau de Frida Kahlo. Et là, je suis tombée dedans et je me suis mise à chercher qui elle était, à regarder sa peinture, ses photos. Et elle est devenue une sœur, littéralement, quelqu'un avec qui je dialoguais.
Et ça fait 20 ans que ça dure. Comment s'appelle votre fille ?
Frida ! Et là, c'est les psys qui se disent « Ok, elle a besoin de s'allonger sur le divan. » Oui, j'ai donné ce prénom à ma fille en espérant quand même pas trop lui passer de casserole, parce qu'il faut essayer d'éviter de passer des casseroles à ses enfants. Mais de fait, c'était une évidence. J'avais envie de lui léguer la joie que Frida Kahlo m'a donnée.
« Rien n'est noir », c'est donc le titre du livre. « Sauf ses yeux, un noir plein de lumière », écrivez-vous. Mais elle avait de démentiels yeux verts, en fait, c'est ça ?
Alors, en fait, sa sœur Christina avait vraiment les yeux verts. Frida, elle avait les yeux noirs, mais c'est Diego Rivera qui aimait à dire qu'il y voyait des couleurs changer de temps en temps, et probablement que souvent il y voyait du vert. Mais après, si on regarde bien les photos de Frida, elle a ses yeux noirs. Vous savez, quand on a du mal à discerner la pupille au centre, qui sont pour moi parmi les regards les plus profonds, un vrai monde.
Une vie tumultueuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Une vie lumineuse aussi, d'ailleurs, vous l'avez dit. C'est pour ça que vous avez pu appeler votre fille Frida.
Oui, alors, je pense que quand on regarde sa vie, les gens se disent « Ah là là, quel martyr en marmelade !» Moi, c'est un peu comme ça que je l'appelle.
Peut-être le rappeler en deux mots, le martyr, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Exactement. Cette jeune fille, quand elle est adolescente, c'est pas qu'elle marche dans la vie, elle court. Elle est un feu follet, c'est comme une jeune femme au début du XXe siècle, mais elle a décidé que elle, aucune porte ne lui serait fermée, peu importe qu'elle soit une femme, un homme, qu'elle vienne de la banlieue de Mexico, elle décide que toutes les montagnes, elle pourra les gravir. Et d'ailleurs, on voit sur des photos, quand elle est jeune, elle s'habille en garçon, elle fait beaucoup de bêtises, elle a un sacré caractère.
Elle veut être médecin ?
Elle veut être médecin. Après, à cet âge-là, je pense que Frida, peut-être qu'elle aurait changé d'avis, mais elle aime le corps, elle aime ce qui se passe à l'intérieur du corps, elle aime la biologie, et son père, avec qui elle a un rapport très intense et complexe, lui a beaucoup enseigné quand elle était petite la technique de la photo, mais aussi des livres d'anatomie. Elle veut être médecin, elle rentre à l'école de la préparatoria au centre de Mexico, la première année où les filles sont acceptées. Elles sont 30 filles au milieu de 2000 garçons. Il faut imaginer l'ambiance. Et Frida, très vite, elle passe ses journées dans le bureau du directeur, parce que ça lui arrive par exemple de rentrer sur un âne à la préparatoria et de faire éclater des pétards. Elle est un peu comme ça. Mais à 18 ans, c'est le coup près, parce qu'elle a un terrible accident, une collision entre un bus et un tramway. Elle est dedans avec son novio, son amoureux de l'époque, Alejandro, et elle est littéralement en charpie par ce bus qui la transperce, la barre la transperce, et elle va se retrouver en sarcophage, ce feu follet qui courait partout, qui sautait au-dessus des buissons, qui grimpait aux arbres, qui aimait bien aussi peut-être faire l'amour derrière les murets avec les jolis garçons. Cette jeune fille se retrouve alitée et il n'y a même plus le ciel au-dessus d'elle. Il va falloir qu'elle devine ce ciel-là qui ne lui est plus accessible.
Et là, elle se met à peindre à un moment donné, et puis elle rencontre Diego Rivera, qui est une star à l'époque, hein, le peintre le plus connu du Mexique, qui est un ogre. Tomber amoureuse d'un ogre, c'est très dangereux parce que on peut être avalé.
On peut être dévoré littéralement. Je pense que Frida, au-delà de tomber amoureuse, elle est allée le chercher, son ogre. Parce que comme vous l'avez dit, Diego Rivera, ce serait peut-être quoi, le Michael Jackson de l'époque, dans le sens, il est tellement connu. Il est l'homme le plus connu du Mexique. Il est par ailleurs même connu au-delà des frontières. Il est allé à Paris, il est allé en Italie, il est allé en Russie. C'est une star. Et Diego, elle l'observait quand elle était à la préparatoria parce qu'il peignait les fresques de l'amphithéâtre Bolivar. Il avait déjà été marié, il avait une séduction de séducteur invétéré. Et Frida, elle l'observait et elle se disait déjà, celui-là, je vais aller le chercher. Et peut-être qu'elle a voulu justement aller vers le danger, vers l'ogre. Parce que l'ogre, c'est la montagne magique. Avec lui, tout est possible. Alors, on sait qu'on va pas être indemne. Mais de fait, elle n'était déjà plus indemne quand elle allait le chercher.
Elle n'a pas d'agenda propre. Son calendrier, c'est Diego, écrivez-vous. Lui peint pour être aimé, mais elle, non.
Elle, elle peint pour s'abriter, pour survivre. De fait, quand elle commence à peindre, c'est qu'elle est clouée sur sa planche, j'allais dire, sur son lit. Elle peint pour survivre, elle peint pour exprimer ce qu'elle ressent. Et de fait, comme un passe-temps, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas d'ego chez Frida à ce niveau-là. Il n'y a pas l'idée de la gloire. Quand elle va aller dans chez tous les grands, dans tous les univers mondains avec Diego, elle adore se moquer de tout ce monde brillant, même si
elle le fait de façon très courageuse aux États-Unis avec Henry Ford, c'est
tout
pas
à
mal.
Fait.
Hein.
Et puis on ne voit qu'elle. Mais de fait, Diego, il a envie d'être aimé du monde entier, de son siècle. Il peint d'ailleurs sur des fresques de centaines de mètres carrés, des milliers de personnages. Tout est complètement disproportionné. Et Frida, elle peint ses tout petits tableaux, le même visage encore et encore et encore. Mais ce visage, c'est peut-être celui de l'humanité tout entière. Et de fait, ce qui est amusant, intéressant, c'est que Diego, qu'on peut percevoir comme quelqu'un, voilà, qui peut être un traître par moment, etc., c'est quand même un mec très féministe. Parce que lui, au début du siècle, c'est un Mexicain, et il dit à sa femme, je pense que tu es meilleur que moi. Va dans le monde, va te battre, peins, travaille. Et c'était pas si fréquent, je pense.
Elle s'est beaucoup peinte, elle, mais ses peintures sont universelles.
Elle s'est beaucoup peint, elle, son visage, comme on se sonde pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'on est debout. Mais de fait, et ça me passionne, elle peint aussi, comme jamais avant, des femmes en train d'accoucher, des fausses couches. Elle peint une femme poignardée par son amant. Elle peint ce corps féminin qui fait peur et qui a toujours fait peur en disant « voilà ce que nous sommes ». C'est ça la grossesse, c'est ça la fausse couche, c'est ça la douleur. Et ce corps, il faut pas en avoir peur. Elle a, je pense qu'elle a ouvert, sans le vouloir, sans le chercher, un pan entier d'une reconsidération de ce corps qui vit, qui est beau, qui souffre, qui a des cicatrices et où ça sort de tous les côtés littéralement. Et je pense que peut-être pour ça aujourd'hui, elle est peut-être partout parce qu'elle nous dit quelque chose encore.
Et écrire sur la peinture, ça n'est pas chose facile et vous le faites avec beaucoup de talent. Rien n'est noir, c'est donc un roman signé Claire Berest, que vous êtes bien Claire Berest, oui. Et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et pour ceux qui veulent vous voir, Claire Berest, je signale que vous serez tout à l'heure à Nancy. Le rendez-vous s'appelle Le livre sur la place.